France Culture.
Et les Midis de Culture continuent à suivre à 13h l'invité du jour, la musicienne, compositrice, interprète Claire Diterzy. Mais tout de suite, c'est Marie Sorbier et c'est le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. A-t-on désormais besoin d'un appareil critique pour lire les romans de Philip Roth ? La question peut paraître un peu saugrenue tant l'auteur américain est reconnu par tous comme un écrivain majeur du XXe siècle. Mais son ironie et son art trouble de la narration peut conduire à des lectures ambiguës. Alors la prestigieuse Pléiade sort justement le troisième tome des romans de Philip Roth sous la direction de Philippe Jaworski. On y retrouve quatre livres écrits entre 1993 et 2007 et c'est le dossier du Point Culture du jour. Maxime Decoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature à la Sorbonne. Vous travaillez notamment sur le rôle de la judéité dans la création littéraire. Alors, ce troisième tome des romans de Philippe Roth vient de sortir en Pléiade. On y trouve quatre romans dans des traductions révisées. Opération Shylock, Une confession, Le théâtre de Saba, Le complot contre l'Amérique et Exit le fantôme. À travers ces quatre titres, quelle cartographie de la judéité se dessine selon vous? Et est-ce que cette lecture change aujourd'hui dans notre manière française de canoniser Roth en Pléiade?
Alors, c'est effectivement dans ces quatre romans qui sont ici réunis, un ensemble qui se dessine au sein d'une œuvre que le romancier a lui-même pensée par sous-ensembles différents et dont rendent compte les volumes précédents et le quatrième volume qui sera prévu ensuite pour ce qu'on appelle la trilogie américaine.
Oui, qui a été écrit d'ailleurs dans les mêmes années, hein, cette trilogie américaine, mais qui sera publiée à part.
Voilà, donc là, il y a une rupture de la chronologie partielle, puisque la trilogie américaine est écrite entre 99 et 2002, ce qui se superpose partiellement avec les textes qui sont regroupés ici, et puis des textes qui sont finalement divers, même s'ils sont écrits dans des périodes, sur la période donc 93-2007. Donc c'est les textes qui terminent en quelque sorte le XXe siècle et qui inaugurent le XXIe siècle. Donc pour revenir à votre question sur la judéité, elle est centrale en fait dans ces quatre romans, alors comme dans toute l'œuvre de Roth. Alors en particulier dans deux des textes qui me semblent les plus importants dans l'œuvre de Roth et qui sont réunis ici, Opération Shylock et Le complot contre l'Amérique. Avec une approche qui dans ces deux romans-là est d'ordre historique et liée aux questions sur l'identité personnelle que se pose Philip Roth depuis le début de son œuvre. Alors, je peux peut-être dire quelques mots sur ces deux romans en particulier. Alors, Opération Shylock, c'est un roman très déstabilisant, mais qui, pour des lecteurs et des lectrices qui connaissent bien l'œuvre de Roth, est une sorte de sommet ou de réunion, de cristallisation de nombreuses interrogations. Parce que c'est un roman qui met en scène un faux Philip Roth et un vrai Philip Roth. C'est-à-dire que c'est une fiction, mais qui se présente comme une sorte de confession. D'ailleurs, c'est le sous-titre, une confession, même si le texte va jouer en permanence sur le vrai et le faux, parce que Philip Roth, le vrai, le personnage, explique qu'il y a un double de lui, qu'il y a un faux Philip Roth, qui se fait passer pour lui en Israël et qui prône ce qu'il appelle le diasporisme, c'est-à-dire le retour des Juifs depuis Israël vers les pays européens. Donc une sorte de mouvement inverse à celui du sionisme. En fait, Philip Roth a une difficulté à se situer en tant que juif par rapport à l'identité juive telle qu'elle s'est constituée au XXe siècle. Parce que Philip Roth est un juif qui n'est pas religieux, c'est-à-dire qu'il a une judéité obsédante mais sans judaïsme. Dès ses premiers textes, il a des tas de conflits avec les juifs orthodoxes américains. Et donc il ne peut pas se définir comme juif par la religion, et il ne peut pas non plus se définir comme juif, comme les juifs européens, après la Shoah, puisque dans la vie américaine, bien cette Shoah est un événement lointain, mais dont les répercussions planent évidemment sur la manière de se penser comme juif. Et donc il y a une sorte de tentative d'appropriation d'une judéité historicisée en se rendant en Israël et en se confrontant aux questions les plus actuelles, l'antisémitisme, le sionisme, avec en mettant en scène ici une galerie de personnages qui vont représenter aussi les facettes les plus sombres de l'identité de Philip Roth, avec ce faux Philip Roth qui est un juif antisémite, avec d'autres personnages qui vont montrer tous les visages possibles de l'antisémitisme et de l'antisionisme.
Mais justement, avec ces narrateurs peu fiables là, que vous êtes en train de décrire et ces dispositifs de double, est-ce qu'on peut empêcher la confusion entre justement une parole de personnage et la position de l'auteur ? Est-ce qu'il faut, selon vous, outiller le lecteur en 2025 pour éviter toute problématique ?
Alors, vous avez raison que c'est un risque, mais que Philip Roth a toujours pris, hein, depuis la complainte de Portnoy, donc qui a été traduit au début par Portnoy et son complexe. Il a été accusé d'antisémitisme et il a aussi été accusé de misogynie. On a régulièrement confondu la parole des personnages avec l'auteur. C'est un travers assez régulier, de toute façon, dans la littérature. Mais ce qui n'empêche pas que Philip Roth prend ce risque de la fiction qui permet d'explorer toutes les facettes de l'identité, toutes les possibilités humaines et de les assumer au risque, effectivement, des malentendus. Et dans Opération Shylock, Philip Roth va vraiment jouer à l'extrême avec les possibles de la fiction, cette démultiplication de l'identité, cette confusion. C'est aussi un roman d'espionnage parodique, extrêmement drôle et complexe, qui ne donne pas de solution, qui va poser des tas de questions, mais qui n'apporte pas de réponse.
Et alors, dans Le complot contre l'Amérique, hein, qui est le deuxième texte sur lequel vous vouliez revenir, là, on est sur une uchronie, donc, c'est-à-dire, et si, finalement, et si Lindbergh avait été élu président des États-Unis. Là, Ross, il reconfigure, on peut dire, l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'il dit dans ce roman-là et en quoi, pour vous, c'est un des romans importants de ce tome ?
Alors, c'est Le complot contre l'Amérique, donc c'est effectivement ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire que Philip Roth envisage que des élections présidentielles en 1940 amènent la victoire de Lindbergh, qui était un sympathisant nazi et un militant conservateur aux États-Unis. Donc à partir de cette situation, au départ réel, il envisage des élections. Donc il fait dérailler l'histoire et il bascule dans la fiction. Lindbergh emporte les élections contre Roosevelt et met en place un régime fascisant aux États-Unis avec une série de mesures discriminatoires contre les Juifs. C'est-à-dire que Philip Roth réalise une sorte d'opération de transfert fantasmatique de cette histoire de persécution qu'a vécu l'Europe, qu'ont vécu les Juifs européens et qu'on n'a pas connu les Juifs américains. Et en même temps, c'est un texte qui met à l'épreuve la démocratie, qui sonde ses limites, la démocratie aux États-Unis, et qui, aujourd'hui, avec le deuxième mandat de Donald Trump, prend un relief assez incroyable dans cette manière qu'il a d'anticiper, caractère quasiment visionnaire, hein, sur les déviations de la démocratie américaine. Il dépeint une situation qui, certes, aujourd'hui ne vise pas les Juifs, mais qui, dans l'Amérique de Donald Trump, ressemble énormément à ce que décrit Philip Roth, notamment parce que Philip Roth s'inspire, hein, de l'histoire américaine, notamment du mouvement America First, hein, qui existait avant Trump, que Trump, en fait, reprend et qui s'était développé au moment de la Première Guerre mondiale.
Eh bien, merci beaucoup, Maxime Decoux. Vous nous avez, je crois, donné très envie de relire et de lire Philip Roth. Le troisième tome de La Pléiade vient de sortir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, changement annoncé à la direction de la ménagerie de Verre à Paris.
Oui, Philippe Ken, à la tête de l'établissement depuis 2022, a annoncé hier sa démission. Le metteur en scène avait auparavant dirigé le théâtre des Amandiers à Nanterre de 2014 à 2020. Créé en 1983 par Marie-Thérèse Allier, la ménagerie de Verre à Paris est l'un des espaces dédiés à la danse et à la performance contemporaine les plus aimés du public et des artistes. Malgré son espace réduit, son festival annuel, Les Inaccoutumés, programmé par Philippe Ken débutera le 9 octobre prochain.
Et pour finir, Marie, René Martin, le directeur de la Folle Journée de Nantes dans la Tourmente.
Âgé de 75 ans, il est à la tête du CREA depuis 1978, hein, le Centre de Réalisation et d'Études Artistiques, une association qui gère 14 festivals de musique classique en France, parmi lesquels la Folle Journée de Nantes. Une enquête menée de manière conjointe par Mediapart et La Lettre du Musicien révèle le management brutal de René Martin, accusé par une vingtaine de collaborateurs d'humiliation, de comportements colériques et irrespectueux à l'égard de ses équipes, À cela s'ajoute un cadre de travail hypersexualisé avec des comportements jugés sexistes ainsi qu'une consommation visible de contenu pornographique sur son lieu de travail, mettant mal à l'aise plusieurs de ses collaborateurs. Et enfin, l'enquête révèle des irrégularités dans sa gestion financière avec des dépenses personnelles réalisées avec l'argent de l'association. Face à ces accusations, René Martin a annoncé s'être mis en retrait de la direction du CREA pour une période indéterminée.
Merci Marie, on vous retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles.
À lundi, bon week-end.
Bon week-end. En attendant, il est bientôt 13h et vous écoutez France Culture.